Bon, donc il est dit, c'est Nichiren Shonin qui dit ça. L'enseignement de Shakyamuni débuta au tout début de la temporelle et s'acheva lors des 2000 ans des périodes de la loi correcte et de la loi symbolique. Donc, Nichiren Shonin dit, il existe à ce sujet un enseignement secrètement transmis. C'est-à-dire qu'aucune des personnes vivant dans la période de la fin de la loi ne possède le bien à l'origine. Elles reçoivent directement et pour la première fois la graine de la bodhiité. Et Daishonin dit, le titre du lotus, donc Myoholangekyo, permet à ceux qui ont réalisé le bienfait d'avoir rencontré 10 000 millions de Bouddhas par le passé, de croire pour la première fois qu'ils entendent Myoholangekyo. Donc il dit que le fait que nous ayons pu croire, commencer à pratiquer et continuer à pratiquer Myoholangekyo, c'est parce que dans le passé, nous avons servi, nous avons fait des offrandes à 10 000 millions de Bouddhas par le passé. Hein, c'est ce qui est dit là. Et un souverain de la loi a déclaré, toutes les personnes peuvent être réparties en deux catégories. Celles qui croient dans les enseignements provisoires et celles qui croient dans les enseignements véritables, définitifs. Donc il dit en gros c'est ça. Il y a ceux qui protègent la loi et la gardent et la répandent et ce qui n'est pas saint. Donc encore une fois, nous c'est ça. Bon an, mal an, nous avons rompu le bouddhisme, nous avons commencé à pratiquer les contenus dans le Gakkai, et malgré tout, nous avons toujours suivi la loi au détriment des péripéties que le groupe, que les autres de nous pouvaient venir rencontrer. Et donc on a conservé la loi. Donc ça montre qu'en fait, on a toujours servi le Bouddha. On a toujours fait des offrandes au Bouddha. Aussi, dans un Nichiren écrit sous forme de question-réponse. Question. Quel est le degré de vos disciples qui, sans la moindre compréhension, récitent Nam-myoho-langekyo seulement une fois? La question est à quel degré parviennent ces disciples qui récitent Daimoku seulement une fois dans leur vie? Et Nichiren répond, ils dépassent, ils sont 100 000 fois, 10 000 fois, 100 millions de fois supérieurs aux fondateurs des différentes écoles bouddhiques de par le monde. Dans le futur, ils obtiendront même un bienfait supérieur à celui résultant des offrandes faites au Bouddha Shakyamuni pendant 80 ans. Ils sont comme le fils d'un roi qui, au début, porte des couches, mais finalement grandit pour monter sur le trône. Ne les méprisez jamais, ne les rabaissez jamais. On dit le fait d'avoir récité seulement une fois Myoholangekyo, c'est passer de la vie où on n'est que effet à la vie où la cause de l'éveil apparaît en nous. Ça, c'est indélébile. Même s'il y a une pratique une fois seulement, il y a plus de raison, donc c'est une pratique pendant des mois ou des années, forcément, l'éveil est là et l'éveil va se développer. La graine va donner des fruits. Donc, il dit, ils sont comme le fils d'un roi qui au début porte des couches, mais finalement grandit pour monter sur le trône. La graine étant, le résultat, bien sûr, doit apparaître. Ne les méprisez jamais, ne les rabaissez jamais. Et aussi, il est dit, dans la première prière silencieuse, il y a l'expression, on va citer matin et soir, il y a l'expression Shoshin Myokaku. C'est du japonais, je ne vous le cache pas. Myokaku, c'est l'éveil suprême de la bodhiité. Shoshin signifie le corps vivant. Donc c'est le corps vivant de l'éveil suprême. Donc tous les matins, quand on récite Daimoku, le Gongyo, on se dirige vers l'est, donc vers l'infinité des choses qui sont à l'est. Et en fait, on fait apparaître en nous le corps vivant de l'éveil merveilleux. Donc il est dit, tous les Bouddhas et Bodhisattvas possèdent le corps de la loi et le corps vivant. On appelle corps de la loi le principe ultime dont ils ont eu l'attestation. Et on appelle corps vivant le corps de chair qu'ils ont confié à un père et à une mère afin de naître pour sauver les êtres et les faire passer sur l'autre rive. Donc c'est notre position actuelle. Il y a un corps vivant qui est celui qu'on a laissé fabriquer par nos parents. Et il y a le corps de la loi qui apparaît en nous, matin et soir, dans le corps vivant, est-ce qu'il en fait réellement un corps vivant, alors que les autres individus ne sont pas vivants? Donc c'est ça. C'est pour ça qu'il dit, ne les méprisez pas, ne les rabaissez pas. Ils sont comme des rois enfants, avec des fringues trop grandes. C'est pour ça. Et le corps de la loi n'est pas perceptible par les êtres humains ordinaires. Donc les, dans le Sado Gosho, Nichiren dit, il est naturel que le sceau, voyant mon corps, me critique. Il ne voit pas que mon cœur est comme de l'or. Mais évidemment, les êtres humains ordinaires ne voient pas le corps de la loi qui apparaît à la personne qui pratique, mais il apparaît. Parce qu'il est produit matin et soir. Et aussi, Nichiren dit, si votre esprit est identique à celui de Nichiren, n'êtes-vous pas un Bodhisattva sorti de la terre? Cela dit, avoir un esprit identique à celui de Nichiren, c'est pas de la tarte, hein, ça demande quand même quelques efforts. Et il dit, si vous êtes un Bodhisattva sorti de la terre, il n'y a pas le moindre doute que vous avez été un disciple du vénéré Shakya à l'instant atemporel. Dans la période de la fin de la loi, il n'y a pas de discrimination entre ceux qui pratiquent les cinq caractères de Myoho Rinpoche, qu'ils soient hommes ou femmes. S'ils n'étaient pas des Bodhisattvas sortis de la terre, il leur serait difficile de réciter Myoho Rinpoche. Voilà. Bien sûr. Surtout de le faire un an, deux ans, trois ans, quatre ans, dix ans, en parler en plus. Ça, c'est, bon, bien sûr. Et donc, en fait, il dit, il n'y a pas de distinction entre ceux qui pratiquent, qu'ils soient hommes ou femmes. Pourquoi? Parce que pour le Bouddha, il n'y a pas de sexualité. C'est pas ce qu'il perçoit chez l'individu. Ce qu'il perçoit, c'est c'est la valeur, c'est l'état. Bien sûr.
La chance de l'éclame.
Donc, je lis celle-là. C'est un peu long et vous allez voir, moi je trouve que c'est assez beau. Donc, Nikken Shonin dit, à certains moments, notre passé et notre présent, noyés dans la souffrance de nos actes dans les trois mondes des six voies, sont éclairés et purifiés par la loi merveilleuse, et nous recevons le bienfait de la vie et de la mort identique au nirvana. À d'autres moments, c'est nous-mêmes, comme des bodhisattvas sortis de la terre, qui sommes éclairés, et qui, du point de vue de l'éternité, ressentons une immense joie de par notre lien avec le bouddhisme. Il a dit encore, si nous récitons avec foi et sans autre pensée Namu Myoho Rinpoche devant le vénéré fondamental, notre une pensée de la foi fusionne harmonieusement avec la une pensée de 3000 du Bouddha originel de la temporelle. Cela est en soi devenir Bouddha sans changer d'apparence et constitue l'aspect le plus essentiel de notre pratique. Et il dit encore, par contre, lorsque nous avons reçu et gardons la loi merveilleuse, et qu'il nous arrive, en raison des relations causales du passé et du présent, d'observer et déclarer la vie de chacun des 10 mondes en nous y éveillant, ceci ne représente pas l'aspect essentiel mais l'aspect éphémère, car ceci ne dépend que de nos capacités et situations individuelles et par conséquent demeure subjectif. Si l'on regarde les choses en termes de substance et de fonction, ça ne correspond qu'à la fonction. Ça ne veut dire quoi? Ça veut dire que on pratique matin et soir, on traverse des choses, et puis il se fait que, lors d'une pratique ou d'une autre, il y a des prises de conscience lumineuses, il y a une joie qui apparaît. Il y a comme une perception de nouveaux objets avec une nouvelle manière de voir, avec une nouvelle manière de sentir. Ça, c'est naturel dans la vie des gens qui pratiquent. Ce sont les éveils par les facteurs, les petits éveils qu'on appelle le 8e état. Donc, il dit, c'est normal. Et au sein des souffrances, il y a des éclairages qui montent de soi en pratiquant. Il dit, mais si on regarde la chose en tant que substance ou fonction, ce sont les fonctions seulement. La substance étant la loi, Myoho Rinpoche, le Bouddha originel. Donc, quelles que soient les prises de conscience que l'on a, ça ne correspond toujours que le point de vue subjectif d'une personne qui est enlisée dans son propre monde, dans son propre réel à lui. Donc, ensuite, si on regarde le sens de l'estrade des préceptes, dans l'enseignement du Bouddha, la troisième grande loi ésotérique, il y a deux sens à l'estrade des préceptes. Il y a l'estrade des préceptes théoriques, ri, et l'estrade des préceptes pratiques. L'estrade des préceptes pratiques, c'est uniquement le lieu où il y a le Dai Gansan. Donc c'est le lieu où le souverain de la loi se trouve. Par contre, les strates des préceptes théoriques, c'est chacun des 11 ondes qui sont distribuées. Donc, quand nous pratiquons matin et soir devant notre 11 ondes, nous sommes devant les strates des préceptes théoriques. C'est-à-dire que tous les éveils que l'on peut avoir en pratiquant sont toujours la fonction de l'éveil. Par contre, là, si on cherche où se trouvent les strates des préceptes concrètes, c'est la pensée du souverain de la loi. Ce qui veut dire qu'il faut toujours ramener nos prises de conscience et nos éveils même partiels à ce qu'enseigne le souverain de la loi, parce que c'est lui les strates des préceptes concrètes. Donc, malgré tout, matin et soir, quand on pratique, nous sommes les strates des préceptes théoriques. Donc, on peut atteindre l'éveil. Non, moi, j'ai le sentiment maintenant, si vous voulez, quand je fais Gongyo, que des pans entiers de doctrine me remontent au visage, comme si j'entendais à nouveau, comme si j'étais enseigné à nouveau. Même si ça naît sans moi, des pans de doctrine apparaissent, et je les vois apparaître comme si elles m'étaient enseignées par quelqu'un. Donc c'est ça notre capacité d'établir les strates des préceptes théoriques. Pour autant, quoi qu'il en soit de ce que je pense, je dois faire coller ma pensée et mes prises de conscience à ce qu'enseigne le souverain de la loi, parce que c'est lui qui dirige. C'est lui le maître de l'esprit des êtres. Pourquoi Nichiren a laissé la troisième grande loi ésotérique à la fin de sa vie? En 1253, Nammyo Rengekyo. Dès 71, à Sado, il inscrit les Gonzon. Donc, il y a les deux grandes lois ésotériques qui sont là assez vite. Par contre, la dernière grande loi, les strates des préceptes, c'est à la fin de sa vie seulement. Qu'il en parle déjà et qu'il la laisse avec Nico Chanin. Pourquoi? Parce que la troisième loi ésotérique, comment dire, l'objet visuellement est le même pour le Bouddha et pour nous, c'est le 11 ans. La pratique, Myo Rengekyo, est la même pour le Bouddha et pour nous. Par contre, l'esprit du Bouddha originel et le nôtre, là il y a un écart. Nous, on est pollués par des conneries, lui c'est le Bouddha originel. Donc, ce qui permet à l'esprit visuel de l'humain d'être dirigé, c'est l'esprit des préceptes, c'est la pensée du souverain de la loi. C'est pour ça qu'en fait, depuis 7 siècles, avec des corps différents, l'esprit a été le même. On dit en général, pour le grand patriarche, souverain de la loi, que pour prendre sa fonction, il se dépouille de ce qu'il est. Il se dépouille de ce qu'il est parce qu'il doit correspondre entièrement à l'esprit du Bouddha originel. Dès que le souverain de la loi a reçu la transmission, ça devient celui qui guide l'esprit des êtres qui pratiquent. Ça, c'est quelque chose d'incontournable. Ça va? On arrête si vous voulez, hein. J'ai encore quelques petits trucs à dire, mais c'est bon? Bon, alors, dans le chapitre du stupa précieux, Shakyamuni, à 3 reprises, demande aux bodhisattvas qui sont là s'ils veulent propager la loi dans l'époque des derniers jours de la loi, quand la loi est balayée par les idées à la con, à droite et à gauche. Donc, à 3 reprises, il dit, y a-t-il quelqu'un qui est prêt à propager la loi dans le monde effroyable de la fin de la loi? Donc, les gens qui sont là, les bodhisattvas, disent, après l'extinction et le passage du Bouddha, nous l'enseignerons largement dans l'effroyable mauvaise période. Et ils ajoutèrent que même si les obstacles et les démons apparaissent alors, ils disent, afin d'enseigner ce sutra, nous supporterons ces difficultés, sans nous attacher à notre corps ni à notre vie, prenant uniquement la voie sans égale en considération. Seulement, est-ils dit, ces bodhisattvas qui donc sont prêts à venir dans le monde pour enseigner la loi, était du Bouddha d'enseignement provisoire, enseignement éphémère. Donc, Shakyamuni leur dit, c'est ces hommes de bien, vous n'avez pas la capacité de propager la loi à l'époque, à cette époque en question. Et en fait, il invite à ce moment-là, Shakyamuni, il invite les Jiyuno Bosatsu à sortir de la terre. Donc à ce moment-là, la terre s'ouvre, et des fractures de la terre sortent d'innombrables Jiyonobosatsu, qui tous ont un aspect plus beau que les disciples de Shakyamuni qui étaient là jusqu'à maintenant, semble avoir des compréhensions de multiples de la doctrine beaucoup plus grandes, et semble même ils ont un aspect admirable, ils sont inconnus, personne ne les connaît, ils débarquent, ils sont tous bons. Donc ces Bodhisattva qui sortent de la terre avaient une parenté aussi nombreuse que les grains de sable des 60 000 Ganges. En apparaissant, ils emplirent les cieux d'une myriade infinie de mondes. Ça signifie que chacun d'entre nous aussi en pratiquant entraîne une infinité de mondes. C'est pour ça que lorsque dans la cérémonie Seijiyuno Bodhisattva apparaissent, il y a l'ensemble de l'univers est pris par leur corps. Chacun d'entre eux étant maître a des disciples qui ont des disciples. C'est exactement ce que l'on fait nous en propageant autour de nous l'enseignement du Bouddha. On apparaît avec des gens qui ont été touchés à la cérémonie dans les airs. Parce que c'est pas quelque chose qui s'est produit à l'époque de Shakyamuni, c'est quelque chose qui est en permanence dans le monde. Cette cérémonie dans les airs, elle est là, c'est l'éveil. Elle peut pas disparaître ou apparaître à un moment ou à un autre. Donc, vous avez l'air d'être fatigué là, hein. Aussi, ces Jiyuno Bodhisattva paraissaient plus âgés que leur maître Shakyamuni. C'est-à-dire que les vertus, les qualités qu'ils montraient de par leur aspect physique semblaient supérieures à celles du Bouddha. Donc ces quatre grands bodhisattvas qui dirigent sont pratique supérieure, Jogyo, pratique sans limite, Muengyo, pratique pure, Jogyo, et pratique sereine, Anrubyo. Il est dit, à ce propos, les quatre guides apparaissant dans le sutra représentent quatre vertus. Pratique supérieure représente la souveraineté. Pratique sans limite représente la permanence. Pratique pure représente la pureté. Et pratique sereine représente la joie. Tu prends quoi? On arrête, hein. Prenez vos forces. Hein. Donc il est dit toujours à propos de du Bodhisattva Jogyo, pratique supérieure, il est dit les choses suivantes. Le lieu de résidence de ce Bodhisattva est la terre de la lumière paisible éternelle. Éternelle représente la vertu de la permanence. Paisible représente la vertu de la délectation. La lumière représente les vertus de pureté et de souveraineté. Les quatre vertus constituent la corbeille secrète. Ainsi, les bodhisattvas sortis de la terre viennent de la terre de la lumière paisible éternelle. La terre du Bouddha, leurs fonctions sont les quatre vertus. Autrement dit, un jour Nikken a dit, nous provenons tous de la terre de la lumière paisible et nous y retournerons. Ça, c'est vrai, aussi. Bien que nous ayons une fonction éminemment provisoire, on pratique depuis assez peu de temps, on fait ce qu'on peut, on est un peu comme des cons, on n'arrive pas à comprendre bien. Ce qu'on peut faire, c'est pratiquer à peu près matin et soir régulièrement. Eh bien, somme toute, ce que l'on fait, les résonances de ce que l'on fait, même si là on ne les mesure pas, montrent qu'en fait on provient de la terre de la lumière paisible et nous y retournerons au moment de la mort. Aussi, il est dit. Nichiren dit, le feu a pour fonction de brûler, celle de l'eau de purifier, celle du vent d'enlever les poussières et celle de la terre de permettre aux herbes et aux arbres de se développer. Le bienfait des quatre bodhisattvas est ainsi fait. Bien que leurs fonctions soient diverses, toutes sont la pratique de Nam-myoho Renge-kyo. Ces quatre bodhisattvas demeurent en bas. C'est pourquoi il est dit au tréfonds de la nature de la loi et l'apogée de l'enseignement. Leur habitat se trouve en bas. Le bas signifie la vérité. Celui qui apparaît de cette demeure d'en bas est appelé réalité. Il est dit, c'est l'aspect de l'apparition des bodhisattvas sortis de la terre. C'est-à-dire que les bodhisattvas sortis de la terre sont apparus de la demeure de la théorie vers la réalité. On dit, nous naissons à chaque instant, en pratiquant matin et soir, nous habitons dans le bas, qui est la vérité ultime de la loi, l'éveil, et en pratiquant matin et soir, nous jaillissons dans la réalité pour nous et pour les êtres ordinaires. C'est ça, jaillir de la terre. Nous jaillissons de la vérité, matin et soir. Et encore, il est dit dans la transmission orale de la doctrine. L'acte des bodhisattvas de l'enseignement originel est Nam-myoho-renge-kyo. Ceci est appelé réciter. À propos du verbe guider, cela signifie diriger tous les êtres du Japon vers la terre pure de la montagne sacrée. Être le maître qui guide signifie que le maître de l'époque de l'ère finale se limite au bodhisattva de l'enseignement originel. Or, le bodhisattva de l'enseignement originel est celui qui dirige les êtres vers la terre au trésor de la lumière paisible en récitant Nam-myoho-renge-kyo. C'est ce que nous disons. Malgré nos troubles, malgré nos handicaps, malgré la petitesse de notre croyance, c'est ce qui se passe. Allez, une dernière, celle-là. Ah oui, aussi là. Nichiren dit, utilisez vos capacités ne serait-ce que pour transmettre une phrase, un mot. Et Nichiren Shonin dit, cette attitude fait de vous une partie du trésor du moine. Si on propage ne serait-ce qu'un mot, qu'une phrase, dans ce cas, on devient le trésor du moine. C'est beau, non? Faut dire que ne te prétends pas, je suis chauve en réalité. Je suis chauve. Mais c'est bon, j'ai ce sentiment qu'en fait je peux faire que ça. Pratiquer puis essayer de. C'est vrai quoi. Le seul truc mandant sur mon existence, c'est de pratiquer ça. Il est dit la non-dualité de la 16 et de la nature innée. Ça c'est bien. C'est qu'à un moment on voit que l'ascèse de la pratique est notre nature innée. Alors longtemps, pratiquer est difficile, on fait l'effort de pratiquer. Puis tout doucement on voit que c'est notre nature innée. On est là pour ça, en fait. C'est là où notre vie est la plus riche. Puis à part ça, on est quand même une femme qui fait les choses que les autres font. Bien sûr. Bon, on arrête là-dessus. 5 minutes, c'est bon?
Bon.
Il est dit, dans le traité sur le sens de la substance, la vérité ultime ne possédait pas de nom. Lorsque, observant ce principe, le saint donna un nom à toute chose, il y eut la simultanéité de la cause et de l'effet. Loi inconcevable. Lui donnant un nom, il l'appela Myoho-renge-kyo. Au sein de cette loi unique de Myoho-renge-kyo, 10 mondes, 3000 phénomènes sont présents sans qu'il en manque un seul. Celui qui le pratique obtient simultanément la cause de la bodhéité et l'effet de la bodhéité. Dans une vie où tout ce qui est n'est que effet, c'est-à-dire donc les 6 voies, le fait de réciter fait qu'on obtient en même temps la cause et l'effet de l'éveil. Étant toujours effet, on pratique le Myoho-renge-kyo en tant qu'effet sans avoir la cause en nous de l'éveil. C'est pas l'éveil en nous qui produit le Myoho-renge-kyo. On pratique dans les 6 voies. Par contre, comme Myoho-renge-kyo c'est la cause et l'effet simultané de l'éveil, pratiquant l'effet, la cause naît en nous. Doucement, ce qui s'installe en nous, c'est la cause de la bodhité. On sait l'état.
Et c'est quelque part aussi la cause qui fait qu'on pratique l'effet. Puisque, on a rencontré le bouddhisme par hasard.
Voilà. Voilà, voilà. Donc d'un côté, on peut dire...
ce que disait Nichiren Shonin, que l'on vient
d'accord.
De la terre des Bouddhas. Et...
Voilà, donc il y a ces outils de lecture. Si on prend une lecture temporelle, comme il avait dit à un moment, c'est qu'on a servi par le passé des milliers de Bouddhas provisoires. Et qu'on a accumulé des causes. Donc maintenant, on ne doute pas en recevant la loi. C'est un point de vue. L'autre point de vue, c'est qu'on n'a jamais quitté la terre de la lumière sereine.
La terre des Bouddhas.
Et ça, c'est plus vrai. On verra ça au moment de la mort. En tranchant. Je vais finir en disant une chose, là. À propos, donc, de la cause et de l'effet de la bodhéité.
Combien même.
Ça aurait été un cancer généralisé qui traîne pendant des siècles. On sait pas quand on va mourir. Donc, le commentaire du grand patriarche est le suivant. Aussi, dit-il, la une pensée de la cause et de l'effet est le nom, la substance, l'intention, l'application et l'enseignement de la loi de l'ensemencement. Le nom, la substance, l'intention, l'application et l'enseignement, ce sont les 5 obscurités, les 5 sens obscurs du lotus que Ziyi a développé. Le nom est EST la substance, est-il dit par Nichiren. Donc, le nom Myoho-renge-kyo est l'éveil. Ça, c'est le premier point. Ensuite, il y a l'intention dont on va parler. Après, il y a l'application, c'est la résonance dans la vie des êtres, et l'enseignement, qui couvre tous les enseignements. Mais parlons donc de l'intention. Au sein de ces cinq mystères, dit le grand patriarche, l'intention est l'élément central à partir duquel on peut voir l'ensemble. Aussi, si l'on procède à la même observation à partir de la substance, on peut certes voir également l'ensemble. C'est-à-dire qu'en considérant l'idée de la substance qui est l'éveil ultime à travers le nom, on peut comprendre pourquoi il y a application, machin. Il dit, mais du point de vue de l'expression définie du bouddhisme, c'est-à-dire de l'origine de tout que sont l'ascèse et l'obtention de l'attestation en soi, l'intention doit constituer le centre d'intérêt. Pourquoi ? Parce que si le nom et la substance sont un, l'urlingue des cures et l'éveil, l'intention, c'est ce qui, en la personne, entraîne l'infinité des êtres. C'est que le Bouddha existe et il ne peut pas être sans entraîner. Et nous aussi, c'est sur l'intention que les choses vont se faire. C'est-à-dire qu'on va ressentir en nous le désir d'aider les êtres à sortir de leur égarement. Et en fait, si l'on considère le nom du Urlingekyo et la substance qui sont un, en fait, donc c'est l'éveil, l'aspect physique, l'aspect momentané, l'aspect humain, ça va se traduire par le sentiment de l'intention en soi. C'est la bienveillance. Donc c'est ça, la mer, le vaste océan du lotus dans lequel, doucement, nous entrons, même si nos pratiques étaient puériles au début. C'est terminé, peut-être un truc pour vous faire rire et puis c'est fini, non? Ah si, c'est celui-là, quand même. Tout petit celui-là, hein. Tout petit, c'est fini. Auparavant, lorsque l'ainsi venu Shakyamuni pratiquait la carrière des bodhisattvas, il ne produisit pas la moindre pensée qui ne fût pas profitable aux êtres rassemblés, quel que soit leur nombre. Sans limite sont les domaines des êtres. Donc, la masse des mérites possédés par les êtres, quelle qu'elle soit, provient de l'aspiration à l'illumination des bodhisattvas. Tous les mérites des êtres humains en général ne viennent que de l'aspiration à l'illumination des êtres qui ont atteint l'éveil.
Donc, il est
aspire donc.
Alors, c'est ça.
Ayant conscience ou pas, on aspire. Toutes les qualités et les vertus des êtres ne viennent que de gens comme nous qui ont essayé d'atteindre l'éveil, parce qu'ils ont été entraînés. Mesdames et messieurs, bonne fin de soirée à tous.